Oui, et à présent, je me penche avec vous sur ce qui a provoqué un fossé entre la radio dite commerciale et la radio associative.
Agora Côte d'Azur. Reportage.
En 84, une grande innovation change le monde de la radio. En effet, la publicité devient officiellement autorisée à la radio, nouvelle source de financement non négligeable. Si au début des années 80, la majorité des radios ont un statut associatif et sont financées par les subventions publiques ou privées, dès le milieu des années 80, les radios prennent un tournant commercial. Cette innovation est évidemment due aux publicités, mais le fait majeur est l'achat des grandes stations de radio par de puissants groupes de communication. Au fur et à mesure, les radios se réunissent au sein de grands groupes tels que RTL Group, qui regroupe les radios RTL et Fun Radio, ou Energy Group, avec Energy, Rire et Chanson, Nostalgie et Chérie FM par exemple. Ces regroupements ont attisé les critiques qui y voient une diminution de la liberté des radios. En parallèle, 600 radios associatives persistent et gardent un tiers des fréquences. Elles se regroupent au sein du Syndicat National des Radios Libres. La Haute Autorité a souvent été critiquée à cause de l'attribution des fréquences. En effet, ces décisions n'étaient pas toujours expliquées et un flou juridique permettait de jouer un peu avec les règles. Elle est donc remplacée en 86 par la Commission nationale de la communication et des libertés. L'idée est de ne pas distribuer arbitrairement les autorisations d'émettre. De nouvelles règles apparaissent donc. Chaque demande d'autorisation doit être accompagnée d'un cahier des charges qui décrit les programmes qui seront émis sur la radio en devenir. Toutes ces innovations font progresser la radio française privée.
Eh bien, c'est dans ce panorama nouveau, avec un panorama radiophonique, avec des radios associatives, c'est la catégorie A, et des radios commerciales, catégorie B, C, D, etc., qui créent un certain équilibre. Il est souhaitable que cet équilibre se maintienne, à l'état actuel des choses. Agora vit dans cette situation depuis le début, peut-on dire, puisque si Agora n'a pas fait partie des radios pirates, elle a commencé à émettre dès 1982, juste après la publication de la première loi Filiou. C'est-à-dire, nous avons connu toutes les évolutions successives, nous avons connu les moments d'expansion qui se sont traduits de 81 à peu près à 1998-2000, à partir de laquelle on a vu se geler les barèmes d'aide aux associatives, se dégrader toutes les mesures prises en faveur de l'emploi, se dégrader ou disparaître toutes les mesures telles que celles qui permettaient aux radios des ressources complémentaires en fonction de leurs choix éditoriaux, comme par exemple la liquidation de l'EPRA, échange et programme de la radiophonique, qui permettait aux radios qui s'engageaient dans des programmes en faveur de l'intégration des populations immigrées, de la lutte contre les inégalités, etc. Tous ces dispositifs ont été, les uns après les autres, purement et simplement suspendus puis annulés, ce qui fait que la vie devient de plus en plus difficile et que la plupart des radios associatives se demandent combien de temps elles pourront encore joindre les deux bouts, maintenir un niveau professionnel.
La quasi-totalité des anciennes radios périphériques sont conservées, beaucoup de radios sont créées, très souvent par des anciens des radios pirates. En 87, la Commission nationale de la communication et des libertés, CNCL, est mise à mal. Plusieurs scandales éclatent au sujet des autorisations de fréquences. Elles seraient accordées majoritairement aux stations commerciales et trop peu aux radios libres et radios associatives non commerciales. De plus, le choix des fréquences est trop peu justifié. Pour l'anecdote, Radio Laser, petite radio associative exclue par le CNCL, engage un procès contre Radio Courtoisie pour, je cite, « corruption active de la CNCL et forfaiture ». Après tant de controverses, la CNCL est remplacée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en 89. Une plus grande indépendance d'action et un meilleur appui juridique sont mis en place. Dans les années 90 et 2000, une partie des radios sont achetées par des réseaux disposant d'une régie publicitaire très puissante. D'autres mettent en place des syndicats non commerciaux afin de préserver leur indépendance vis-à-vis de leur programmation.